sont rares. Donc, mais Jésus est un ami fidèle. Nous allons ouvrir nos Bibles dans Luc chapitre 2. Luc chapitre 2. Et nous allons lire le récit de la naissance du Christ. Donc Luc chapitre 2. Et nous allons lire les 20 premiers versets. Je vous donne le temps de trouver. Vous savez, une naissance, c'est toujours un miracle. Et même s'il y en a eu, il paraît, 820 000 naissances en France, seulement en l'année 2015. Et ce n'est pas parce qu'ils sont si nombreux que ça que ce n'est pas extraordinaire chaque fois qu'il y a un miracle, une naissance. C'est un miracle. Et la naissance de Jésus est un miracle aussi, de par sa dimension naturelle, mais aussi de par le fait qu'il s'agit de l'incarnation de la parole de Dieu. Donc Luc chapitre 2, et je lis à partir du verset 1. En ce temps-là, parut un édit de César Auguste ordonnant un recensement de toute la terre. Ce premier recensement eut lieu pendant que Quirinius était gouverneur de Syrie. Tous allaient se faire inscrire, chacun dans sa ville. Joseph aussi monta de la Galilée, de la ville de Nazareth, pour se rendre en Judée, dans la ville de David, appelée Bethléem, parce qu'il était de la maison et de la famille de David, afin de se faire inscrire avec Marie, sa fiancée, qui était enceinte. Pendant qu'ils étaient là, le temps où Marie devait accoucher arriva, et elle enfanta son fils premier-né. Elle l'emmaillota et le coucha dans une crèche, parce qu'il n'y avait pas de place pour eux dans l'hôtellerie. Il y avait dans cette même contrée des bergers qui passaient dans les champs les veilles de la nuit pour garder leurs troupeaux. Et voici, un ange du Seigneur leur apparut, et la gloire du Seigneur resplendit autour d'eux. Ils furent saisis d'une grande frayeur. Mais l'ange leur dit, « Ne craignez point, car je vous annonce une bonne nouvelle, qui sera pour tout le peuple le sujet d'une grande joie. C'est qu'aujourd'hui, dans la ville de David, il vous est né un Sauveur qui est le Christ le Seigneur. Et voici à quel signe vous le reconnaîtrez. Vous trouverez un enfant emmailloté et couché dans une crèche. Et soudain, il se joignit à l'ange une multitude de l'armée céleste, louant Dieu et disant « Gloire à Dieu dans les lieux très hauts et paix sur la terre parmi les hommes qu'il agrée. » Lorsque les anges les eurent quittés pour retourner au ciel, les bergers se dirent les uns aux autres « Allons jusqu'à Bethléem et voyons ce qui est arrivé, ce que le Seigneur nous a fait connaître. » Ils y allèrent en hâte, et ils trouvèrent Marie et Joseph et le petit enfant couché dans la crèche. Après l'avoir vu, ils racontèrent ce qui leur avait été dit au sujet de ce petit enfant. Tous ceux qui les entendirent furent dans l'étonnement de ce que leur disaient les bergers. Marie gardait toutes ces choses et les repassait dans son cœur. Et les bergers s'en retournèrent, glorifiant et louant Dieu pour tout ce qu'ils avaient entendu et vu et qui était conforme à ce qui leur avait été annoncé. Voilà, surtout. Et nous aussi, nous voulons nous joindre à ces bergers-là parce que justement, tout avait été conforme à ce qui avait été annoncé. Et la naissance de Jésus a été annoncée bien avant cette apparition des anges aux bergers. Vous savez qu'à l'époque de la naissance de Jésus, eh bien, il fallait que la mère soit descendante de David, mais il y avait certainement plus d'une fille qui pouvait prétendre être descendante de David. Bethléem, c'était le village de David. Donc certainement que la plupart des gens, toutes les jeunes filles de Bethléem étaient descendantes de David. Il y avait certainement beaucoup. Mais c'est étonnant, pourquoi est-ce que Dieu est allé jusqu'à choisir une jeune fille qui habitait à 150 km de là, alors qu'il savait que l'enfant devait naître là à Bethléem? Pourquoi se compliquer la vie, hein? Et puis de plus, cette histoire, c'est pas l'histoire d'une fille pauvre qui se marie à un prince. Mais celui qui va devenir son mari, eh ben, c'était Joseph, et qui avait des très petits moyens. Et la preuve, c'est que, et vous et moi, vous le savez, que s'ils avaient eu des moyens, s'ils avaient de l'argent, ils auraient pu trouver une chambre à Bethléem. Bon, vous connaissez la vie assez, que si on a de l'argent, on trouve toujours. Mais avec eux, ce qu'eux pouvaient proposer, ce qu'eux pouvaient payer, il n'y avait rien. Imaginez que Dieu confie un enfant si important à une jeune femme qui doit, dans son 9e mois, doit se déplacer 150 km à pied pour arriver là au lieu où devait naître le Messie. Et puis celui qui doit prendre soin d'elle, et c'est quelqu'un qui n'a pas de moyens. Vous savez, si ça était quelque chose qui avait été mis en place par les êtres humains, on aurait dit que c'est mal ficelé. Hein, c'est... Mais vous savez, ce qui est extraordinaire, Dieu dit, moi je préfère comme ça. Parce que comme ça, c'est à moi qu'on attribue la réussite. Hein, c'est comme ça, quand c'était vraiment une situation impossible pour les humains, alors là on est obligé de dire, bah, c'est Dieu qui a fait. Et il préfère ces situations-là. Peut-être c'est pour ça que tant de nous avons des petits moyens. Parce que comme ça, on reste dépendant de lui. Ça me fait penser à cette prière d'Agur qu'on peut trouver dans Proverbe 30. Il dit, Dieu, je ne veux pas être si riche que je t'oublie, mais je ne veux pas être si pauvre que je sois obligé de voler. Mais que je puisse être dépendant de toi. C'est quand même pas mal, bien équilibré, n'est-ce pas? Et c'est les situations que Dieu nous donne. Vous savez, Dieu, bien avant la naissance de Jésus, il a révélé aux prophètes, à différents prophètes, à des époques différentes, des prophètes qui ne pouvaient pas se consulter, et à chacun, il leur a donné des détails différents concernant le Messie. Hein. Donc, les conditions qu'il fallait remplir étaient quand même un peu assez précises, assez pour le reconnaître, mais assez pour compliquer les choses. Parce que, déjà dans Genèse chapitre 3, Adam et Ève viennent de pécher, et ils se sont mis dans une situation à cause de leur péché. Là, tout d'un coup, ils ont perdu leur innocence. Et ils se trouvent sous la condamnation, et ils n'ont même pas encore pensé à comment sortir de cette situation, et ils n'ont pas encore pris compris la situation dans laquelle ils se trouvent, et déjà Dieu leur propose quelque chose. Il dit, écoute, et dans Genèse chapitre 3 et verset 15, il dit, je mettrai une inimitié entre toi et la femme, parlant à Satan, au serpent, et entre ta postérité et sa postérité, celle-ci t'écrasera la tête et tu lui blesseras le talon. Donc déjà, celui qui devait devenir leur sauveur, et donc le nôtre aussi, eh bien ne pouvait pas être un ange, mais devait être un être humain, puisqu'il est de la postérité de la femme. Hein? Donc déjà, et peut-être que vous connaissez ce mouvement qui veut croire que Jésus-Christ était un ange qui est venu humain, c'est pas un ange, c'est un être humain qui est notre sauveur. Et ensuite, dans Genèse chapitre 12, donc Dieu qui parle à Abraham, et il lui dit, c'est toutes les familles de la terre seront bénies en toi. Et il dit aussi dans Genèse 22, verset 18, toutes les nations de la terre seront bénis en ta postérité parce que tu as obéi à ma voix. Et donc toutes les nations, et donc il ne parlait pas seulement d'un peuple particulier, il parlait de toutes les nations. Il a dit « toutes les nations seront bénies en toi », c'est-à-dire que celui qui serait cette bénédiction, eh bien, serait un descendant d'Abraham. Hein, donc, et de par Isaac, donc, il serait juif. En Genèse 49, et verset 10, il nous dit qu'il serait de la tribu de Juda, parce que Jacob, dans sa bénédiction à ses fils, ses 12 fils, eh bien, dit « Je le vois, mais non maintenant, je le contemple, mais non de près, un astre sort de Jacob, un sceptre s'élève » d'Israël. Et ensuite, ça c'était Nombre 24 et Genèse 49, 10 nous dit « Le sceptre ne s'éloignera point de Juda. » Donc celui qui est la royauté, la famille, la tribu qui aura la royauté, eh bien ce sera la tribu de Juda. Et ensuite dans 2 Samuel chapitre 7, eh bien là, Dieu parle à David, au roi David, et lui dit que celui qui sera roi éternellement, eh bien, sera de ta postérité. Donc, il faut qu'il soit fils de David. Ensuite, en Ésaïe, chapitre 7, verset 14, ça remonte à déjà à plus de 400 ans avant la naissance de Christ. Et le prophète Ésaïe, au chapitre 7, verset 14, eh bien, il nous dit, c'est pourquoi le Seigneur lui-même vous donnera un signe. Voici, la jeune fille deviendra enceinte, elle enfantera un fils, et tu lui donneras le nom d'Emmanuel. Donc, il a dit, à l'époque, jeune fille, c'était une vierge, forcément. Et il dit, voilà le signe, et elle deviendra enceinte, elle enfantera un fils, et tu lui donneras le nom d'Emmanuel, qui signifie Dieu avec nous. Donc, il fallait qu'il naisse d'une vierge. Donc déjà, ça, c'est déjà, c'est élimine beaucoup de monde. Hein. Et puis ensuite, en Michée, chapitre 5, verset 2, eh bien, il dit, « Et toi, Bethléem Ephrata, petite d'entre les milliers de Juda, parlant de ce village hein, d'Ephrata, dit, « De toi sortira pour moi celui qui dominera sur Israël et dont l'origine remonte aux temps anciens, au jour de l'éternité. » Il dit donc, toi, village de Bethléem, Ephrata, c'est de toi que viendra celui qui est depuis nous toujours. C'est de toi qu'il paraîtra. Et donc, Bethléem, c'est la ville choisie par Dieu pour la naissance du Sauveur. Dans Osée, chapitre 11, verset 1, il nous dit, « Quand Israël était jeune, je l'aimais, j'appelais mon fils hors d'Égypte. » Donc, à un certain moment, Jésus devait être en Égypte. Et il a été en Égypte. Et quand vous lisez l'histoire dans Matthieu, chapitre 2, eh bien, vous voyez pourquoi, à cause de la menace du roi Hérode, eh bien, Joseph a dû prendre Jésus et Marie et fuir en Égypte pour les sauver. Et donc, il est passé par l'Égypte. Maintenant, si vous êtes touriste et si vous allez en Égypte, il y a plusieurs endroits où ils prétendent qu'il a été. Hein, qu'il y a certains oliviers qui étaient là quand Jésus est passé. Il y a une église qui dit que c'est ici qu'il était. Bon, après, vous savez, pour les touristes, on leur promet tout ce qu'ils veulent chercher. Tout ce qu'ils cherchent, ils vont vous le trouver. Mais ce qui est vrai, c'est qu'il est passé en Égypte. Hein, donc, dans son enfance, les premières années. Et puis aussi, il nous dit qu'il devait être appelé Nazaréen, c'est-à-dire qu'il fallait qu'il vive un moment à Nazareth. Et nous savons, même s'il est né à Bethléem, il a grandi à Nazareth, là où Joseph était charpentier. Donc toutes ces conditions, il fallait les remplir avec un couple qui n'a pas les moyens de faire grand-chose. Et tout ça, c'est décidé à l'avance, et il se trouve à la merci d'un empire romain qui gère la vie des gens, ils décident qu'il y a un recensement, et eh ben tout le monde doit se déplacer, le monde entier se déplace, mais finalement, c'est comme ça qu'il amène Joseph et Marie à Bethléem pour la naissance du Christ. Hérode, lui, tout d'un coup, il menace tout le monde, et il veut tuer tous les bébés de Bethléem, et eh bien Joseph et Marie descendent en Égypte, ce qui était prévu. Vous comprenez pourquoi j'ai donné ce titre à mon étude, Dieu coordonne les lieux, le temps et les personnes pour réaliser son plan. Il arrive, c'est extraordinaire comment il laisse tout le monde libre faire ce qu'ils veulent. Ceux qui veulent faire le mal, ils font le mal. Ceux qui veulent faire le bien, ils font le bien. Et Dieu réalise son plan. C'est ça un Dieu extraordinaire. Hein? Ça ne peut pas être l'invention des hommes. Les hommes, ils ne font pas les choses de cette manière-là. Mais Dieu arrive à laisser tout le monde libre. Chez les hommes, quand on veut être dictateur et on veut faire ce qu'on veut et que ça se passe comme on veut, et bon, alors là, on force les gens. Il n'y a plus de liberté. On enlève la liberté pour réaliser ses projets. Dieu, qui est tout-puissant, eh bien, dit, moi, pour manifester ma toute-puissance, ce n'est pas en obligeant les gens contre leur volonté, c'est en les laissant faire selon leur volonté, et je réalise mes plans quand même. Ça, c'est encore plus puissant. Et ça, c'est au-delà de ce que les hommes peuvent prétendre. Et aucun homme n'a pu le faire. C'est ça le Dieu qui nous a été révélé. Et donc, par la bouche du prophète Jérémie, Dieu dit, tu as bien vu, car je veille sur ma parole pour l'exécuter. Jérémie 1,12. Je veille sur ma parole pour l'exécuter. Je m'engage en promettant quelque chose et ensuite je l'accomplis. Dieu n'est pas au-dessus de sa parole. Dieu est un avec sa parole. Ce qu'il dit, il le fait. Et n'essayons pas de dire que Dieu est tellement puissant qu'il n'est pas obligé de garder sa parole. Chez les hommes, c'est vrai. Prenez les grands dictateurs, les hommes puissants, ils peuvent promettre une chose et faire autrement. On a l'habitude, même quand on est élu et quand on est président d'une république, on arrive à promettre des choses et faire autre chose. Mais Dieu dit non, moi, quand je promets quelque chose, je le fais, je l'accomplis et je me donne les moyens de le faire. C'est pour cela que Dieu complique, dans un sens, on dit pourquoi il a compliqué des choses, mais il a dit comme ça, vous verrez de quoi je suis capable. Et ça va vous rassurer, parce que vous vivez dans un monde où les choses vont dans tous les sens. On a l'impression que qui est-ce qui coordonne tout cela ? Hein? On a l'impression que les choses, il dit, t'en fais pas. Si tu es entre les mains de Dieu, tu n'as rien à craindre. Parce que moi, j'arrive à prendre soin de toi dans une tempête et dans un temps où tout va dans tous les sens, où il y a tellement de volonté, tellement d'intérêt, chacun tire de son côté, des nations, des individus et mais Dieu dit, écoute, j'ai pu faire naître Jésus là où je voulais, quand je le voulais et comme je le voulais. Eh bien, si je peux faire ça, je peux prendre soin de toi. Fais-moi confiance. Et nous constatons que toutes les conditions établies, bien avant sa naissance, et par différents prophètes, à des époques différentes, eh bien, tout s'est réalisé, s'est accompli à la lettre. Ensuite, je veux voir les confirmations de la naissance du Sauveur. Parce que, vous comprenez que, si vous lisez un peu le récit, vous voyez, l'ange a apparu à Marie, Marie était toute seule. On peut dire, oui, ben, elle est gentille, je crois, Marie, oui, bon, elle est gentille, mais bon, il n'y avait pas de témoin, hein, qui est-ce qui sait si c'était vrai, hein, peut-être elle a eu des songes, il y en a d'autres hein, qui ont raconté des choses. Il y en a d'autres qui ils ont dit, ben, on s'est baladé dans la forêt, et puis d'un coup, il y a un ange qui est venu, et puis il nous a montré un livre, et on a ouvert le livre, on l'a traduit, et puis c'est le début d'une religion. Hein, les Mormons, ils ont bien leur livre qui est apparu comme ça, puis après, il l'a enterré, puis personne ne l'a plus vu. Et tu veux que je le croie. Et Marie aurait pu dire, mais oui, j'ai vu une apparition, l'ange est venu. Il dit, ouais, moi aussi. Et puis après, Joseph, il dit, moi, j'ai eu un songe. Il dit, ouais, moi aussi, j'ai des rêves. Et vous savez, on a le droit, parce que la vérité n'a pas peur des questions. Les mensonges, il n'aime pas. Hein. Quand quelqu'un ment, il aime, il dit, bon, tu n'as pas confiance en moi. Tout de suite, il dit, tandis que quelqu'un qui dit la vérité, il dit, non, attends, bouge pas, je vais t'expliquer tout. Quand c'est du vrai, on n'a pas à craindre. Et la Bible, elle n'a pas peur des questions. Et là, on se trouve, tout d'un coup, et je vous rappelle, dimanche dernier, on parlait un peu de la naissance de Jean, hein, avec son père Zacharie, sa mère Élisabeth. Mais la naissance était quand même extraordinaire, et Élisabeth était d'un âge avancé, mais elle a quand même eu son fils. Mais vous savez, l'ange, les dernières paroles de l'ange qui a apparu à Marie, il lui a dit, Marie, je sais que ça te paraît impossible. Tu dis, tu vas avoir un fils. Elle dit, je ne connais point d'homme. Il a dit, ça vient du Saint-Esprit, ça n'a pas besoin d'un homme, c'est Dieu qui le fait. Et elle dit, bon ben, voilà, que la volonté de Dieu fasse. Et l'ange lui dit, il dit, tu sais, ta parente Élisabeth, elle est enceinte. Ben, elle connaît l'âge de sa parente. Elle sait que Élisabeth est d'un âge où elle ne peut plus avoir d'enfant. Il dit, ta parente est enceinte. Donc, Marie, tout de suite, elle dit, bon, ben, je vais aller la voir. Et elle va la voir. Et à peine elle arrive, que Élisabeth dit, ah, je vais le lire. Luc chapitre 1 et les versets 42 à 45. Écoutez ce que dit, à peine si Marie arrive devant Élisabeth, et Élisabeth s'écrie, verset 41, je vais lire 40. Luc 1, 40. Elle entra dans la maison de Zacharie et salua Élisabeth. Dès qu'Élisabeth entendit la salutation de Marie, son enfant tressaillit dans son sein et elle fut remplie du Saint-Esprit et s'écria d'une voix forte, « Tu es bénie d'entre les femmes et le fruit de ton sein est béni. Comment m'est-il accordé que la mère de mon Seigneur vienne auprès de moi ? Car voici, aussitôt que la voix de ta salutation a frappé mon oreille, l'enfant qui est... a tressailli d'allégresse dans mon sein. Heureuse celle qui a cru, parce que ces choses lui ont été dites de la part du Seigneur, et elles auront leur accomplissement. » Il y avait... Personne ne pouvait être sûr, il n'y avait pas de témoin, à l'apparition de l'ange à Marie. Mais là, tout d'un coup, Élisabeth, qui n'a aucun rapport, qui est carrément ailleurs, eh bien, elle, tout d'un coup, elle confirme la chose. Elle déclare, elle dit, tu es enceinte, je sais que tu es enceinte et que tu portes mon Seigneur. C'est un témoignage qui n'a aucun rapport, qui ne pouvait pas être influencé par elle. Marie ne savait pas, elle n'avait encore rien dit. Et voilà Élisabeth qui le déclare. Jeudi soir, nous parlions un peu des mages. Et vous savez que Joseph dit, j'ai eu un songe et l'ange m'a dit, l'enfant qu'elle a vient du Seigneur, donc ne crains pas, prends-la comme ta femme, garde-la jusqu'à son accouchement. Et on aurait pu dire, ouais, ben bon, d'accord. Mais... comme on l'a fait remarquer, les mages d'Orient, ils sont venus de on ne sait où, ils avaient vu une étoile qu'ils ont interprétée comme étant le signe que le roi des Juifs venait de naître. Et donc, ils se sont déplacés du lieu où ils se trouvaient pour arriver jusqu'à Jérusalem. Et à Jérusalem, ils ont commencé à dire « Et où est le roi des Juifs qui vient de naître ?» Personne n'était au courant. Et finalement, on regarde les prophéties, on dit « Bon, si, quand il naîtra, ce sera à Bethléem. » On ne te dit pas qu'il est né, on dit qu'il doit naître à Bethléem. et eux partent en direction, et puis ils revoient leur étoile, et puis l'étoile les conduit jusqu'à... Et eux, ils arrivent, et ils adorent l'enfant. Ils l'ont confirmé. Eux, c'était des témoins qui ont confirmé que cet enfant était bien celui qui était promis. Ils n'avaient aucun rapport. Joseph et Marie n'avaient pas pu les influencer, ils n'étaient pas au courant. Ces mages ont posé la question à Jérusalem avant que Marie et Joseph sachent qu'ils étaient même là. C'était une confirmation qui n'avait aucun rapport, qui était par ailleurs, et qui vient certifier que c'est bien lui et pas un autre. Ce n'est pas Marie et Joseph qui sont mis dans la tête et ont dit « Bon, on va faire semblant et on va dire que c'est notre bébé. » Non, c'est venu d'ailleurs, la confirmation. Et puis, en plus, vous avez l'apparition des anges au berger. Encore une fois, vous posez la question, mais oh, pourquoi est-ce qu'il a fait ça à des bergers? Si l'ange avait pu apparaître à un grand docteur de la loi, quelqu'un qui comprend quelque chose, ou un roi, au moins comme ça aurait aidé les choses. Non, Dieu est trop sage et comprend trop bien les hommes. Il a dit, je prends des hommes simples, naïfs, qui ne savent pas faire autre chose que de dire ce qu'ils ont vu. Parce que ça, c'est la meilleure des preuves, c'est les meilleurs témoins. Vous savez, ces pauvres bergers qui ont vu des anges et qui ont eu tout ça, ça les a tellement marqués que quand ils sont entrés en ville, personne ne pouvait nier le fait que quelque chose leur était arrivé. Hein. On pouvait être autant incroyant qu'on voulait, mais on était obligé de reconnaître qu'il leur est arrivé quelque chose, hein, parce qu'ils n'étaient plus les mêmes. C'est pareil que lorsque, si votre vie est transformée, tout d'un coup, votre vie prend une autre orientation, et tout d'un coup, vous aimez le Seigneur, et vous aimez, vous... Eh bien, les gens ils disent, bon, je ne sais pas ce qui lui est arrivé, je ne sais pas comment expliquer ça, mais bon, ce qui est sûr, c'est qu'il y a quelque chose qui lui est arrivé. Hein, et Dieu a choisi des bergers, et les bergers arrivent, Joseph et Marie n'avaient pas pu les informer, ils n'étaient pas au courant, les bergers arrivent, et disent, hey, on sait que vous avez eu un bébé. Personne ne savait, on est là, personne ne sait qu'on a un bébé. Nous, c'est les anges qui nous ont dit ça, alors. Et Marie repassait ces choses dans son tête, dans son cœur. C'est ce que nous devons faire aussi. Mais vous savez, il y a eu des témoins. Et les témoins, et si vous les comptez, vous comptez Élisabeth, vous comptez les mages, vous comptez les bergers, vous avez trois catégories de témoins qui sont là pour confirmer la chose. Et nous avons toutes les raisons de croire que cet enfant-là était le Messie et pas un autre. Et ensuite, c'est important pour nous de regarder et de dire, bon, ben, puisque Dieu a donné toutes ces prophéties concernant sa naissance et il les a réalisées, il y a eu ces témoignages pour confirmer que c'était bien celui-là, celui qui était né dans l'étable à Bethléem, qui était le Messie. Bien maintenant, il est important pour nous de nous intéresser au message donné par les anges. Et dans Luc chapitre 2, et je relis ce message... le premier ange qui apparaît, voilà ce qu'il dit. Et l'ange, c'était ce qui, l'ange qui était apparu à, donc Gabriel, qui était apparu à Zacharie, dit, je viens de la présence de Dieu, j'apporte ce message, qui est une bonne nouvelle. Ici, cet ange dit aussi, je vous apporte une bonne nouvelle. Il dit, ne craignez point, car je vous annonce une bonne nouvelle, qui sera pour tout le peuple un sujet d'une grande joie, c'est qu'aujourd'hui, dans la ville de David, il vous est né un sauveur qui est le Christ le Seigneur. Il dit, je vous donne des signes, comment vous allez le reconnaître. C'est le seul bébé qui est dans une crèche. Alors vous cherchez la crèche de Bethléem et vous allez le trouver là. Il dit, et celui-là que vous allez trouver, eh bien, il est le sauveur. Le Christ, le Seigneur. Et c'est l'ange qui le dit. Ce n'est pas les bergers qui l'ont dit, c'est les anges qui l'ont dit. Les anges étaient trop peu éduqués pour savoir comment manipuler les mots et pour dire les choses, dire « Ah non, si on dit ça, ça ne sera pas bien, il ne faut pas dire comme ça. » Non, eux, ils ont dit, comme un enfant, un enfant qui raconte, on peut croire un enfant qui raconte quelque chose parce qu'il ne sait pas manipuler les événements et les faits. Et donc Dieu, finalement, dans sa sagesse, a choisi des bergers pour rendre témoignage, pour transmettre le message, parce qu'ils ont dit qu'eux, ils ne toucheraient pas. On connaît trop bien les hommes, vous savez, dès que ça passe par deux personnes, ça ne se ressemble plus. Hein, Dieu, il connaît ça. Donc, il dit, cet enfant que vous allez trouver dans la crèche, eh bien, c'est le sauveur. Et si l'ange qui vient de chez Dieu dit que c'est le sauveur, c'est que c'est le sauveur. Et maintenant, je peux ne pas croire, mais ça ne change rien. Ou ça l'est, ou ça ne l'est pas. Mais il a dit qu'il vous est né un sauveur qui est le Christ, c'est-à-dire celui qui a été oint, celui qui a été promis, le Seigneur, et donc il reconnaît aussi sa divinité. Et dit, et le signe, voilà, pour qu'il n'y ait pas de confusion, c'est celui-là. Il est le sauveur. Et ensuite, la multitude d'anges qui se sont joints, eh bien, ils avaient ce cœur, gloire à Dieu dans les lieux très hauts et paix sur la terre parmi les hommes qu'il agrée. Il y a ce désir de Dieu, et c'est ce qu'ils ont été en train de chanter, c'est ce désir de ce qu'il y a dans le ciel et ce qu'il y a sur terre, eh bien, il doit avoir un lien, un rapport entre les deux. Ça a toujours été la volonté de Dieu. Vous lisez la Bible du début jusqu'à la fin, il y a toujours ce désir de Dieu, de pas que le ciel soit au loin, que Dieu soit loin de l'homme et que l'homme soit seul, abandonné sur terre. C'est jamais été la volonté de Dieu. Dieu veut nous rapprocher. Et c'est le cœur de ces anges, c'était gloire à Dieu dans le très haut et parmi les hommes, la paix. Et la paix, eh bien, la paix, c'est pas le cessez-le-feu. Hein. Cessez-le-feu, vous le savez, vous êtes tous assez grands pour savoir qu'un cessez-le-feu, ça ne veut pas dire la paix. Ça veut dire qu'on n'entend pas les armes, et encore, hein, de nos jours. On n'est pas sûr encore. Mais la paix, ça veut dire c'est quand tout est en ordre. Quand on dit il y a la paix dans la maison, ça ne veut pas dire qu'on n'est pas en train de se tirer les cheveux. Ça veut dire que tout fonctionne normalement. Tout fonctionne bien. Maman est dans la cuisine, en train de faire ce qu'elle a à faire, et puis le bébé, il est content, et le papa, il est en train de travailler dans le garage, et les enfants, il y en a un qui fait ses devoirs, l'autre qui est en train de jouer. Il y a des choses qui sont jetées un peu partout, mais tout le monde est content. Ça, on dit qu'il y a la paix dans la maison. Hein? Ça ne veut pas dire que tout est en ordre, ça veut dire que tout se passe bien. Les relations entre les uns et les autres sont bonnes et tout se passe bien. Et puis papa, il arrive et il rentre dans la cuisine, il dit, je peux te donner un coup de main. Maman dit, écoute, elle apporte le café jusqu'à papa dans le garage et puis tout se passe bien. C'est ça, on dit, ça c'est la paix. Mais c'est ça que Dieu veut, c'est ça la paix que Dieu veut pour l'être humain. C'est pas ce qui existe, ça je suis d'accord avec vous, mais c'est ce que Dieu veut. C'est pour ça qu'il a envoyé Jésus-Christ pour l'apporter. Déjà, il faut la paix dans le cœur de l'individu. Et lorsque les individus sont en paix avec Dieu, ils seront en paix les uns avec les autres. Et c'est ce que Dieu désire. Et ce Noël, c'est tellement extraordinaire parce qu'il nous dit, eh ben, c'est le Sauveur. Et vous savez, ça correspond exactement au nom que l'ange a donné et à Marie. Il a dit, tu l'appelleras Jésus. Et il a dit à Joseph, il a dit, tu l'appelleras Jésus, car il sauvera son peuple de ses péchés. C'est le sauveur. Le mot Jésus veut dire celui qui sauve. Et donc, ça a été la fonction de Jésus. Et si Jésus est venu, c'est pas juste pour faire du bien. Il a pu le faire. Mais c'était aussi pour donner sa vie à un rançon, pour régler la question du péché qui existe entre nous et Dieu, qui nous sépare, afin de pouvoir rendre la communion possible. Vous savez, Dieu n'est pas un Dieu qui est au loin et puis on fait ce qu'on peut pour venir à lui. Non, c'est lui qui vient vers nous et qui nous reçoit et qui nous attire à lui. Vous savez, quand je viens chez vous, vous m'invitez chez vous, eh ben, ce n'est pas à moi d'essayer de trouver comment je peux rentrer dans la maison pour vous retrouver dans le salon. C'est vous qui venez me rencontrer à la grille et vous me faites rentrer. Mais Dieu, c'est pareil. Ce n'est pas à nous de voir comment on peut se débrouiller, trouver des échelles pour monter au ciel, donc on invente des religions. Hein, c'est des échelles mal faites, mais on essaie de faire des bonnes œuvres, et puis on donne des listes à celui-ci, à celui-là, et tout ça. Ils s'épuisent toute leur vie, et puis ils disent, je ne sais pas si je vais y arriver, je ne sais pas. Et alors, mais c'est Dieu qui vient, qui nous rencontre là où nous sommes, et qui nous conduit jusque-là. Et c'est ce que Dieu a fait à la personne de Jésus-Christ. Il est venu parmi les hommes pour nous prendre et nous conduire jusqu'à lui. La porte du ciel, elle n'est pas au ciel, elle est sur terre. Et on passe par la porte sur terre. Dis-je, je suis la porte. Si quelqu'un entre par moi, il sera sauvé. Et après, une fois qu'on est passé par la porte sur terre, la décision se fait sur terre, on passe par la grille sur terre. Et après ça, eh bien alléluia, parce que ça y est, on sait qu'on est dans le jardin. Après, une fois qu'on est dans le jardin, on sait qu'on va arriver à la maison. Et c'est ça le message de l'évangile, c'est la beauté de Noël, c'est pour ça qu'on se réjouit à Noël, quand on comprend vraiment ce que Dieu a fait. Ce n'est pas une question de petit Jésus dans les bras d'une femme, c'est vraiment faible ça. C'est la parole de Dieu, Dieu qui vient vers nous et il est venu parmi les plus pauvres, les plus faibles, afin que tous se sentent concernés. Dieu, vous savez, les gens qui veulent être élus, hein, juste avant les élections, ils descendent, puis ils se promènent au marché, ils serrent la main de n'importe qui et tout ça. Mais une fois qu'ils sont élus, essayez de les trouver au marché. Mais vous savez, Dieu est descendu au marché, là où nous sommes, et il reste là, et il nous invite constamment, et il nous invite tous à venir à lui. Ça, c'est le Dieu de la Bible. Ça, c'est le Dieu que j'ai découvert. C'est le Dieu que j'aime. Et c'est pas une religion, c'est un mode de vie. C'est une relation, et c'est ce que Dieu propose. Et loué soit son nom. Dites-moi, bon, c'est, tout ça, il y a des choses qui ne sont pas faciles à comprendre. Écoutez, même l'apôtre Paul a dit, il est sans contredit, le mystère de la piété est grand. Celui qui a été manifesté en chair, justifié par l'Esprit, vu des anges, prêché aux gentils, c'est-à-dire aux païens, cru dans le monde, élevé dans la gloire. Il dit, c'est un mystère, c'est sûr qu'il y a un côté mystérieux. Mais il y a un côté que je peux comprendre, que je peux saisir, mais il faut que je l'accepte. Parce que Dieu ne s'impose pas, Dieu propose. Et c'est à nous de recevoir. Mais le message est vrai. Et nous voulons louer le Seigneur pour cela. Et là, nous allons prier. Mais d'abord, nous allons avoir un moment de silence. Et chacun réfléchisse dans son cœur avec ce qu'il a entendu et dire, moi, je me situe où dans tout cela? Est-ce que je suis celui qui le recherche et donc que je dis, Dieu, conduis-moi jusqu'à ce que je trouve, je ne te lâche pas, je te cherche jusqu'à ce que je te trouve? Ou bien vous l'avez déjà trouvé, dit le Seigneur, merci pour cette grâce, il a permis que je te trouve et donne-moi maintenant de rester avec toi, de marcher avec toi. Que chacun prie dans son cœur et réponde et dise à Dieu ce qu'il vraiment il pense dans son cœur. Dis Dieu, je veux la paix donc que tu veux offrir, celle dont les anges parlaient. Je veux cette paix-là. Et ensuite, je prierai. Que chacun s'exprime dans son cœur.